brute, ce qu'on voit, c'est que la justice est instrumentalisée pour des faits d'une banalité affligeante, que ça soit l'affaire de Julien aujourd'hui, que ça soit des camarades qui, au Havre, ont déployé une banderole entre deux poteaux et qui se retrouvent à faire 16 heures de garde à vue, des personnes qui travaillent au Festival de Cannes qui perdent leur emploi à cause d'une répression par la préfecture. Il y a plein de petites histoires comme ça. Et il faut qu'on les relie, il faut qu'on les mette ensemble, il faut qu'on se souvienne qu'on veut avoir un mouvement social fort dans l'écologie comme dans d'autres secteurs. Et pour qu'il soit fort, il faut que quand on vienne nous chercher, on puisse être solidaire. No Basaran.
No Basaran.
Bonjour à toutes et à tous. J'interviens au nom du collectif Le Client de Gonesse. On est dans le même objectif que Bassine Lambercy. Il y a un entêtement de bétonner les terres agricoles. Europa City a été abandonnée, mais on lutte aujourd'hui pour empêcher le préfet à imposer une cité scolaire sur le triangle de Gonesse, là où le ministre de la Justice a renoncé à installer une prison. Voilà où on en arrive dans l'entêtement que mène le gouvernement pour réaliser, bétonner les terres agricoles. Donc la lutte sur le triangle continue. On a déposé des recours contre cette cité scolaire avec un lycée agricole que l'on veut sur le territoire, mais pas sous le bruit des avions où le logement permanent est interdit avec un internat. C'est lamentable ce qui se passe. La lutte continue. On a un rassemblement le 27 juin avec les soulèvements de la Seine, Canal Seine-Nord, la Bassée, Grindorf et le triangle de Gonesse avec les soulèvements de la Terre sur l'Île-de-France. Je rappellerai que l'Île-de-France, il y a moins d'un siècle, était autonome à 80% au niveau de son alimentation. La plaine de France est connue comme plaine agricole de production de blé. Il y avait de la production maraîchère importante sur le territoire, des alimentations, de l'agriculture nourricière. Et bien sûr, il faut du blé pour faire le pain. Mais ce n'est pas l'unique culture qu'il y a eu historiquement en plaine de France. Merci à toutes et à tous. Et bien sûr, qu'on apporte le soutien. Et on s'est rendu à Sainte-Soline quelquefois. Merci à Sainte-Soline qui nous aide dans cette lutte contre la politique agricole actuelle.
Julien Le Guay prend le mégaphone.
Déjà, je voulais commencer par noter qu'il y a un certain nombre d'écharpes parmi nous. À cette heure où la démocratie, elle est fortement attaquée, en cette année peut-être pré-fasciste, tous se battent pour que ça n'arrive pas. Ça me paraît très important que vous soyez là en écharpe à nos côtés. Il y en avait un certain nombre d'entre vous qui étaient présents à Sainte-Soline. Et qu'en dépit de ça, malgré votre interposition pour protéger des blessés, vous aviez aussi été la cible des quads. Et je vais vous donner mon état d'esprit aujourd'hui. Ces procès, ils ont une vocation qui est de nous faire taire, qui est de nous réduire au silence. Ils n'auront pas mon silence, ça c'est clair et net. Même si j'ai prévu de ne pas parler, de faire valoir mon droit au silence devant cette justice aux ordres. Cette justice qui m'a condamné la semaine dernière à une peine de 6 mois de rétention à mon domicile pour des dégradations qui ont été réalisées lors de la manif de Sainte-Soline 1, où on voit bien que le logiciel, c'est il y a une association, il y a un regroupement en vue de commettre des dégradations et ou des violences. Si on en attrape un sur les 20 000, eh bien on s'acharne sur celui-là. Donc c'est selon cette logique-là que j'ai écopé de cette peine, qui a été associée à une peine de près de 20 000 euros de dommages et intérêts, également de préjudice moral et de remboursement de frais de justice. Donc là aussi, ça permet de voir un petit peu la stratégie qui sont à l'œuvre en face. Évidemment qu'ils espèrent à travers ça nous réduire au silence et également faire en sorte que toute notre énergie aujourd'hui soit mise à nous défendre et pas être sur l'offensive et à continuer d'attaquer, à dénoncer ce que sont ces maudites méga-bassines. On ne va pas tomber dans ce piège-là. Évidemment qu'il faut faire état de la répression qu'on subit, il faut l'analyser, la comprendre pour mieux la combattre. Mais il ne faut jamais oublier de parler du fond du dossier. Ce qui nous emmène là, c'est notre volonté commune de se battre pour un monde simplement viable demain. C'est notre amour des rivières, c'est notre amour de pouvoir simplement se baigner dans nos rivières, dans nos marais, de pouvoir s'estomaquer d'un vol d'un héron et ces choses-là. Il ne faut pas perdre de vue non plus que notre lutte, non seulement elle est légitime, mais en plus elle est quasiment légaliste. On nous qualifie d'intervention dans les termes de désobéissance civile, alors que nous luttons contre des ouvrages qui sont classés illégaux. Alors qu'il est, la bassine de Sainte-Soline, elle est vide parce qu'elle est illégale. Elle est vide parce qu'il y a une espèce en voie de disparition dont il y a plus que 600 mâles chanteurs pour toute la France qui s'appelle Loutartaine Petière et que Dubé, la préfète qui porte plainte pour moi contre diffamation, eh ben elle n'a pas respecté le code de l'environnement, elle n'a pas respecté la protection des espèces protégées, elle n'a pas imposé voilà, COP de l'eau, la société anonyme coopérative de l'eau, qui est cette société privée qui accapare l'eau sur notre territoire, elle ne leur a pas imposé les études et les mesures compensatoires qui aurait dû être mise en place pour une espèce autant en péril. Je rappelle également que la veille de mon procès, de mon verdict la semaine dernière, au tribunal administratif de Poitiers, le rapporteur public, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quasiment la parole de l'État, le rapporteur public demandait le démantèlement, la destruction des 5 bassines illégales de Charente-Maritime de la Zaï des Roches, qui en dépit de recours qui courent depuis 15 ans, avaient continué à être remplis sur dérogation ou sur laisser-faire des autorités. L'État est tellement défaillant dans ce dossier de bassines qu'aujourd'hui, on en est réduit à devoir organiser des opérations de démantèlement de ces ouvrages illégaux. J'ai en mémoire cette manifestation magnifique que nous avions conduite ensemble au mois de novembre 2021 et où alors que le premier chantier de Mosée se mettait en place, nous avions pris la direction de Mosée, nous avions bifurqué, nous étions allés vers la bassine de Cranchaban et nous l'avions désarmée collectivement. Et c'était un grand, grand moment de joie. Et cette bassine, elle est illégale. Et cette bassine, elle n'aurait en réalité jamais dû voir le jour. Donc on voit bien que la stratégie en face, c'est de nous réduire au silence à travers la multiplication des procédures bâillons, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et puis également à travers des opérations de maintien de l'ordre, il paraît que c'est le terme, aussi dévastateur que celui qu'on a pu connaître à Sainte-Soline. Alors, je vais faire une petite dédicace à la dame qui m'a emmené jusqu'à Paris aujourd'hui, Emmanuel, le 30 mars 2023, alors que Serge et Michael étaient entre la vie et la mort, je t'ai qualifié d'assassine. Alors peut-être que dans les faits, tu n'as tué personne, mais tu as donné des ordres qui allait dans le sens de la mort. Tu as mobilisé 3200 forces de l'ordre. Je rappelle que la dite Emmanuelle, avant d'arriver en Deux-Sèvres, elle était au cabinet de Darmanin. Et donc, elle n'a pas eu grande difficulté à mobiliser toute cette armada. Je rappelle qu'à Sainte-Soline, il y avait également 9 hélicoptères, qu'il y avait 4 blindés, qu'il y a 5000 bombes qui ont été lancées. On parle tout le temps des blessés graves dont la plainte a été classée sans suite. Et ça, c'est un véritable scandale. Ça dit vraiment le dysfonctionnement de notre État, de notre justice et également très clairement de l'IGGN. Et tant que ce sera des gendarmes qui seront habilités à vérifier les opérations de gendarmerie, évidemment que ce sera toujours dysfonctionnant. Vous savez que quand les images de Mediapart ont été révélées, ce que ça révèle vraiment, c'est cette complicité de l'IGGN qui, dès lors qu'elle a eu connaissance des images, avait le devoir, et c'est l'article 20 du Code civil, de signaler les actes illégaux qu'elle constatait. Et même si ce n'étaient pas les personnes à qui on pouvait imputer la blessure de nos camarades, ces actes étaient illégaux, on aurait dû enclencher des enquêtes administratives immédiates, ce qui n'a pas été fait. Donc, par rapport à la plainte que les camarades ont posée, il y a un nouveau recours qui a été déposé. Il y a une nouvelle plainte auprès d'un juge d'instruction. Mais vous pensez bien que tout va être mis en œuvre pour enterrer cette affaire, pour que les Dubé, les Darmanin, les Hernandez, c'était le numéro 1 de la gendarmerie à ce moment-là, le général Daniel, le colonel Vessieux, n'est pas à comparaître devant ces instances-là. Et bien c'est pour cette raison que cet après-midi, je ne parlerai pas à la justice. Je ne leur répondrai pas. Et je ne leur répondrai plus tant que les bourreaux de Sainte-Soline ne seront pas passés sous les fourches codines de la justice. Noba Saran, et soutien camarade du 8 décembre. Agenda. Mercredi prochain, je comparaîtrai auprès du camarade Benoît Feuillu, porte-parole des soulèvements de la terre. Je comparaîtrai également aux côtés de Benoît Jaunet et Nicolas Giraud, qui étaient les porte-parole de la Confédération paysanne. Et nous allons comparaître en appel pour l'organisation de Sainte-Soline 2. En première instance, Nico a pris 3 mois, j'ai pris 6 mois. Et nous allons passer devant la même juge qui m'a mis les 6 mois avec bracelet. On va avoir la chance d'avoir des témoins vraiment de très grande qualité. On va pouvoir notamment entendre Benoît Biteau, eurodéputé au moment de Sainte-Soline, et présent lors de la manif. On va également recevoir Michel Forst, rapporteur de l'ONU en charge des défenseurs de l'environnement. Et on entendra également Nicolas Selnik, qui est un des rédacteurs de cette enquête formidable qui s'appelle Les Assoiffeurs et qui vient décrypter comment ces procédés d'accaparement de l'eau sont à l'œuvre sur l'ensemble de nos territoires. Il y a un grand rassemblement qui est organisé à Poitiers devant le tribunal à partir de midi et qui finira tard le soir, parce que face à l'adversité, ce qui nous permet de tenir, ben c'est ça, c'est quand on fait corps, c'est quand on se retrouve, et puis c'est aussi quand on fait la fête et quand on se retrouve dans la joie. Et donc il y aura toute une programmation culturelle, théâtrale, également des tables rondes. Et puis je finirai mon marathon judiciaire le 29 juin avec une plainte pour diffamation du colonel Vestieux, l'ancien numéro 1 de la gendarmerie des Deux-Sèvres. On m'impute le fait d'avoir écrit devant la gendarmerie le 1er mai 2023 alors que Serge était encore dans le coma. On m'a plus d'avoir écrit pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. J'ai été relaxé en première instance sur la diffamation. J'ai été relaxé en appel sur la dégradation que ça représentait. Et donc, je vais avoir affaire à nouveau à ce triste sire, le Ludovic Vestieux. Je ne sais pas si c'est une mise au placard, mais en tout cas, il est à Paris aujourd'hui, sur des affaires notamment d'intelligence, ce qui est paradoxal connaissant le bonhomme, j'en aurais tellement à dire, voilà, il est devant une bécane en train de faire du fichage, etc. Voilà, donc l'agenda est fourni, le mouvement est loin d'être mort, on attend un moratoire une bonne fois pour toutes, et surtout le message qu'on veut faire passer, c'est que si suite à la LUA, il y avait des projets de bassines qui venaient à démarrer au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, tenez-vous prêts à vous mobiliser. Évidemment qu'on lancera les appels à l'échelle nationale pour à nouveau y faire face. Nobassaran.
Je vous invite à saluer l'outarde Canepetière, grâce à laquelle la bassine de Sainte-Soline a été déclarée illégale. Outarde Canepetière, vous savez pourquoi on l'appelle Canepetière ? C'est la canne qui pète. Et Julien, tu vas nous faire le cri de l'outarde Canepetière, on va tous reprendre ensemble.
Faut bien le faire, sinon elle répond pas. Voilà, c'est un peu sec.
Allez, tous ensemble.
Ça fait penser à Dubé qui a touché deux fois 4000 euros, parce que Castex, à un moment donné, avait écrit que si les préfets concrétisaient sur les Deux-Sèvres quelques bassines, à chaque bassine, une prime de 4000 euros. Donc Dubé a touché 4000 euros pour une bassine illégale, celle de Sainte-Soline.
Bonjour, dans la continuité un petit peu, pour vous dire que la répression ne nous arrête vraiment pas, si vous êtes dispo le 28 juin, on a une mobilisation contre des projets de méga-bassines dans le Berry. Plus d'infos après sur le site. Merci.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Toi l'étudiante, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Étudiant, tu l'as bien infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, oh, t'as les symptômes, mais tu es contaminé.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et ta visité Roissy.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et ta visité Roissy.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Toi le bébé qui donc te l'a donné, oh sais-tu au moins qui t'a contaminé.
Toi le bébé qui donc te l'a donné, sais-tu au moins qui t'a contaminé.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama. Tu la passeras, si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour chacun aura sa fichesse. C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour chacun aura sa fichesse.
Toujours ce 21 mai 2026 devant le tribunal de Paris, on se retrouve avec les députés écologistes Lisa Bellucco, députée de la Vienne.
Bonjour.
Et Benoît Biteau, député de Charente-Maritime.
Bonjour.
Vous êtes en plein travail en ce moment, il n'y a pas une loi d'urgence agricole qui est en train de se débattre et de se négocier là à l'Assemblée nationale et pourtant vous avez fait le déplacement ici pour soutenir Julien Le Guay et Bassine Non Merci.
Ça c'est le quotidien des députés de faire des arbitrages entre deux choses absolument cruciales, mais on a quitté la séance un tout petit peu plus tôt que la pause pour pouvoir venir ici et on était justement en train de débattre des méga-bassines, de simplifier encore le stockage de l'eau pour l'agriculture à destination de l'irrigation spécifiquement, sans aucune condition, sans aucune exigence, juste il faut stocker de l'eau pour les agriculteurs. Donc c'est ce que nous propose aujourd'hui ce gouvernement, Annie Genevard, Monique Barbu, l'inconnue ministre de l'Environnement qui ne défend absolument pas la protection de la biodiversité, la protection de l'eau, enfin on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là en séance.
Alors, il paraît qu'on a une ministre de la Santé aussi, mais c'est pareil, elle est très discrète.
Oui, bah là, elle est même pas là. Je pense qu'elle considère que ça ne la concerne pas, le fait que tout le monde puisse avoir accès à l'eau. C'est pas un problème de santé pour elle, certainement. Mais plus largement, dans ce projet de loi, on a tout ce qu'on aime hein, pour l'agriculture. Alors, je dis ça de manière ironique, évidemment, mais la facilitation du stockage de l'eau, la facilitation de l'installation d'élevage industriel, la réduction de la participation du public, primauté de l'agriculture industrielle sur les autres agricultures, avec toujours cet argument. Nous, on n'oppose pas les modèles. Nous, on les oppose.
Des zones humides.
La suppression des zones humides, parce que quand même, c'est un petit peu chiant de devoir préserver les zones humides. Le fait de pouvoir tuer tous les loups.
Oui, la prédation des loups.
Par contre, faire sauter le principe de précaution, ça c'est omnibus, ça c'est au niveau européen, non ? Et la limitation aussi de la police de l'environnement ou de l'Office national de la biodiversité, là c'est pas dedans aussi ?
Non, là c'est pas dedans. Alors sur l'omnibus, on travaille dessus. Moi je viens de préparer une proposition de résolution européenne que j'espère je vais pouvoir soumettre à la Commission des affaires de l'Union européenne très vite. Pour dénoncer l'omnibus donc, qui veut libérer les pesticides sans aucune clause de revoyure et demander à ce que la France se positionne pour ne pas valider ce délire de simplification européen, puisque c'est ça le principe de l'omnibus, hein, c'est de la simplification des règles européennes, au titre de la simplification, mettre en danger la santé bien sûr, mais aussi la biodiversité, le dérèglement climatique et quelque part la souveraineté alimentaire, parce qu'en vérité, et c'est ce qu'il n'a pas compris ce gouvernement, c'est ce que n'a pas compris la Commission européenne, c'est que ce qui menace sévèrement la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de continuer d'accélérer, notamment avec cet omnibus 10, mais aussi avec la loi d'urgence agricole qu'on est en train d'essayer de détricoter. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale en ce moment.
Vous êtes un groupe de 38 ?
Nous, on est 38, oui.
Je suis écologiste aussi, oui. On est 38. Évidemment, on est quand même très, très aligné avec le groupe de la France Insoumise, où sur les questions écolo et agricole, on est aligné à 95%, on va dire. Je pense qu'on a quelques divergences minimes. Ce qui est plus compliqué à gérer aujourd'hui, c'est une approche, on va dire, différente avec les socialistes, même si nos objectifs sont les mêmes. Moi, je continue à le dire. C'est augmenter considérablement la part de l'agriculture biologique, opérer une transition agricole. Eux, ils pensent encore qu'on peut négocier avec ce gouvernement. Nous, non. Donc, on se bat pied à pied pour essayer de faire reculer ce texte et c'est dur.
Notre divergence, c'est ça, c'est un peu le en même temps moderne, hein, les socialistes, et puis le principe qu'on pourrait être dans une transition où on aurait le temps. Nous, enfin, et a fortiori moi, qui suis de plus en plus âgé et qui suis plutôt, enfin voilà, moi je suis plutôt sur la fin de ma carrière politique que le début. Plus le temps passe et moins je suis patient parce que le caractère d'urgence fait qu'il faut agir vite. Et donc moi j'ai beaucoup de mal avec cette complaisance qui pourrait penser qu'on a le temps d'agir et que tout va bien, quoi.
Je voudrais profiter de ce micro et de votre présence pour adresser un salut amical à Charles Fournier, qui est le député d'Indre-et-Loire. On a quand même de la chance à Tours parce qu'on va voter sans pince à linge sur le nez, hein, que ce soit municipal ou législative. Et donc voilà, petite dédicace à Charles, qui est votre collègue, qui a eu un petit coup de mou là, ces derniers temps, mais qui va revenir.
On pense à lui beaucoup. On pense à lui. On lui souhaite de revenir en pleine forme avec toujours autant de verve et de volonté, de pugnacité. Donc voilà, on pense à lui, mais comme on le connaît, il va savoir dépasser cet épisode un peu délicat pour lui.
Et en tout cas, merci à vous. Je ne vais pas vous retenir plus, hein, puisque pendant que vous êtes en train de me parler, ils sont peut-être en train de voter des saloperies, donc je ne vais pas...
C'est la pause en ce moment.
J'avais demandé un jour à Charles, toi qui fréquentes les gens de l'autre bord, là, vous devez, je ne sais pas, boire des verres d'eau à la buvette de l'Assemblée nationale, genre de trucs, les gens des autres partis, là, qui a priori ne pensent pas, ils n'ont pas les mêmes analyses que nous. Normalement, ils ont des cœurs, ils ont des cerveaux, ils ont même des enfants. Les scientifiques sont là pour nous le dire. Plus ça va mal et plus on a l'impression que l'agro-industrie, les lobbies et les politiques de droite et d'extrême droite qui les servent enfoncent l'accélérateur pour qu'on s'écrase encore plus dans le mur. C'est fou.
Oui, on ne se l'explique pas vraiment. Moi, je dis toujours, tout ça doit être à la fois dû à du cynisme et de la bêtise. Mais je pense qu'il y a une différence de sensibilité. Ce qui fait qu'on est écologiste, c'est que
C'est que vous buvez de l'eau et que vous avez des enfants.
Mais c'est qu'on en pleure. Enfin, je sais pas, ça nous prend aux tripes. C'est ça la différence, c'est que ça nous prend aux tripes. Moi, je vous le dis, j'ai pleuré dans l'hémicycle quand la loi du plomb a été adoptée. C'est insupportable. C'est insupportable pour nous. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette sensibilité. Je sais pas, ils se rendent pas compte que c'est leur vie, leur santé, leurs enfants, effectivement, qui vont être les premières victimes. On voit l'explosion des cancers chez les jeunes, chez les moins de 50 ans, du pancréas, cancer colorectal. C'est leurs enfants. C'est leurs enfants.
Chez toi, en Charente, hein, explosion de cancer pédiatrique.
Ils sont dans une forme de déni avec aussi... des prétendus experts comme je vais lâcher, hein, des Emmanuel Ducrot, des Géraldine Vosner, qui continuent de les alimenter avec des propos démagogiques, populistes et des raccourcis simplistes. Et donc ils s'appuient là-dessus pour continuer d'être dans leur déni. Après, effectivement, c'est peut-être la note d'optimisme, c'est que ma prédécesseur, qui était une macroniste, avait fait le choix d'une ligne politique de soutien inconditionnel au monde agricole, à la FNSEA et donc à cette agriculture productiviste intensive et industrielle. Et moi, j'avais fait le choix pour la campagne de 2024, justement, de me positionner en direction de ces familles qui sont victimes de l'utilisation de ces pesticides et qui ont des enfants concernés par des cancers pédiatriques. Et la note d'optimisme, c'est peut-être celle-ci, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, et je m'adresse à ces députés qui continuent d'écouter Vosner, Ducrot et la FNSEA, est-ce qu'aujourd'hui, même électoralement parlant, ça continue d'être porteur, d'être en défense de ce type d'agriculture-là? Et je pense être la preuve vivante, quand on fait campagne pour la protection de la santé, de nos enfants en premier lieu, mais aussi de l'eau, de la biodiversité, de l'air qu'on respire et de l'argent public, eh bien il y a un espoir d'être élu. Et moi je pense que être sur une ligne politique de soutien inconditionnel au monde agricole de la FNSEA, c'est plus une ligne politique qui fera gagner les députés demain.
Le cancer, il s'en fout de quel bulletin on met dans l'urne et qu'il ne frappe pas que les gens de gauche ou les écolos.
Ça, après, ils se débrouillent avec leur conscience. Mais effectivement, le bulletin de vote, c'est pas un bouclier contre le cancer. Ça, c'est évident.
On va hélas se revoir prochainement, Benoît, pour plus parler de la LUA. Et puis, toi, tu es vernis, hein, puisque première circonscription de la Vienne. Donc là, c'est Futuroscope et... des poulaillers industriels en pagaille à l'horizon?
Pour l'instant, un très gros, mais qui est un peu à côté de ma circonscription. 150 000 poules dans ma circonscription. C'est plutôt des projets à 30 000 poules qui sortent. 30 000, 40 000.
De formidables incubateurs à grippe aviaire, quoi.
Voilà, c'est formidable. On n'apprend rien du passé, on n'apprend rien de nos erreurs, apparemment. Bon, la suite au prochain épisode. Hein.
Bon courage à vous et à bientôt, j'espère.
27 mai à Poitiers, convocation de Benoît Jaunet et de Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, devant les tribunaux. Donc, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, rassemblons-nous pour défendre les lanceurs d'alerte et les désobéissants civils.
Bon, bah, à la semaine prochaine, quoi.
Voilà, à la semaine prochaine, nous on y sera.
Et on vous le racontera, ce procès du 27 mai 2026 au tribunal de Poitiers, auquel, avec Julien, comparaîtront donc deux membres de la Confédération Paysanne et un co-porte-parole des soulèvements de la terre, les quatre injustement accusés d'avoir organisé la manif de Sainte-Soline 2, injustement, puisqu'un porte-parole n'est pas un leader ou un organisateur, c'est un porte-parole. Fin d'après-midi du 21 mai 2026, Julien ressort du tribunal de Paris où il a passé plusieurs heures face à la préfète Dubé.
Alors, peut-être pour répondre à votre question, à celle qui est redondante et tout, est-ce que ça va? Oui, ça va.
Ouais. Bravo.
Puis je dirais surtout bravo Pierre, parce que ce qui est très important dans toutes ces épreuves-là, c'est que je ne suis clairement pas tout seul, qu'évidemment que les comités de soutien, ça joue énormément du moral, et puis ce qu'on a fait là-haut, continuer à parler de la lutte et de la cause qui nous anime et ce qui profondément c'est important, il ne faut pas tomber dans le piège. Je rends aussi hommage à mes avocats qui sont tout le temps très disponibles, hein, très à l'écoute, et vraiment on a des vrais espaces pour échanger, construire des stratégies. De la même manière que on remerciera jamais assez les camarades des Legal Team qui s'activent, et derrière tout ça, ben, toutes les cagnottes, etc., qui permettent en fait de faire fonctionner tout ça. Le jugement, il va être rendu le 2 juillet. Personnellement, je ne suis pas convaincu que je referai l'aller-retour pour l'occasion. Puis, alors, à voir, si je suis équipé du bracelet, peut-être que j'en profiterai pour venir faire une excursion à Paris. On verra. Après, c'est clair, ça faisait très drôle d'avoir cette bourreau de Sainte-Soline à côté. Je la voyais, elle tripotait son alliance. J'ose espérer qu'au fond d'elle, elle n'est pas fière. C'est pas évident, hein. Je lui prête des intentions et une humanité qui n'est peut-être plus la sienne. Pas de pronostic, évidemment. Vous avez entendu que le procureur, il propose de suivre les demandes. Il n'a pas demandé la relaxe, ça aurait pu être le cas. Hein. C'est pas sa ligne. Et ça n'a pas été dit explicitement, mais la demande faite en termes de réparation, c'est 8 000 euros, plus 5 000 euros de frais d'avocat. Quand on parle de procédure Bayon, c'est aussi par le pognon. Et là, il y a quand même un truc un peu subtil, parce que les cagnottes, c'est super. Mais est-ce qu'on a bien envie de filer des dommages et intérêts à ces gens-là? Par exemple, les 20 000 euros à la COP de l'eau, peut-être qu'on peut espérer que la COP de l'eau elle soit en faillite et qu'elle soit dissoute avant que je leur règle le moindre centime, voyez-vous. Ça fait aussi partie de la résistance et peut-être on en est à ce stade-là et peut-être dans les étapes qu'on doit imaginer construire à l'avenir collectivement, c'est qu'on voit bien que face à cette répression, ce système répressif dont on commence à décrypter et comprendre les rouages et les mécanismes et les objectifs, une des stratégies qui est notamment mise en œuvre par beaucoup de camarades en Italie, c'est vivre durablement dans l'insolvabilité. Je sais qu'en Italie, les camarades qui s'investissent dans le Lyon-Turin, tous les jeunes qui partent au charbon, en fait, ils organisent collectivement l'insolvabilité. Peut-être qu'il faut, en effet, puisque ce type de procédures, elles sont appelées à se multiplier, qu'on trouve des espaces pour cogiter ça et penser la solidarité et la lutte sur le long terme. Je suis très conscient, je l'ai déjà dit, de l'énormité du soutien que vous m'apportez. Et j'ai aucun doute sur le fait que nos engagements et nos histoires, elles nous engagent sur le long terme. Néanmoins. Et puis toujours pareil, si je suis la face visible de l'iceberg, comment on garantit les accompagnements similaires pour tous les camarades qui n'ont pas cette visibilité-là? Comment on pense tout ça sur le long terme? Voilà. Donc un grand, grand, grand merci à vous d'être venu. Évidemment que ça aide à sentir bien, quoi, et debout. Ce que j'espère finalement, en attendant que les vrais procès des bourreaux de Sainte-Soline aient lieu, et peut-être qu'il faudra attendre qu'il y ait un changement de gouvernement pour qu'un jour on puisse les voir. Par exemple, Darmanin, on n'est pas prêt de le voir devant une telle cour, puisqu'il est protégé par son statut de ministre, et que s'il devait être jugé, c'est devant la Cour de justice de la République, qui est constituée d'élus essentiellement de sa majorité. Donc on va peut-être laisser passer le temps, et Pino Bassaran, quoi, toujours.
On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas. On pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a
9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une. De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Alors Julien, que retiendras-tu de cet énième procès de ton marathon judiciaire ?
Déjà, ça a été assez long, c'est un gros tribunal et il y a eu plein d'affaires avant et juste des arrangements d'agenda entre avocats, quoi. C'était assez lunaire. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas un Google Agenda ? Des trucs assez lunaires aussi parce que c'était un peu le show business qui était là. Dans les noms que j'ai entendus sur les affaires en amont, il y avait Anthony Delon par rapport à la déclaration vis-à-vis de son père. Il y avait Anne Hidalgo. Enfin voilà, il y avait un côté un peu VIP, quoi.
Oui, parce que cette chambre, là, la 17e, là, elle est spécialisée dans la diffamation.
Diffamation et tout ce qui est droit de la presse, ouais.
Ton grand crime, tu as osé dire que la préfète Dubé est une préfète assassine.
Ouais.
C'est celle qui a piloté, on le rappelle, la répression policière de Sainte-Soline. Mais comme tu l'as dit, au-delà de sa personne, elle n'est qu'un rouage d'une machinerie répressive.
Ouais, mais un rouage, j'ai envie de dire, au même niveau qu'un Papon ou qu'un Adolphe Thiers. Voilà, moi c'est bien dans cette généalogie-là que je la classe de ces préfets oppresseurs qui sont capables de donner la charge sur le peuple. Toujours la raison, c'est de protéger le pouvoir et c'est de protéger les puissants. Elle était là, elle a fait le voyage de la Haute-Savoie, la dame de la Haute-Savoie, là. J'ose espérer qu'elle n'était pas si à l'aise que ça dans ses petites baskets. J'ai cru recéler un peu de honte. J'espère qu'elle a honte. J'espère que ça l'habite, j'espère que ça la hante, j'espère que ça la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Et puis j'espère même que peut-être un jour, elle aura la franchise de dire ce qui s'est passé en coulisses. Quelle discussion elle a eue avec Darmanin sur au moment où il faut autoriser l'utilisation des armes durant la manif. C'était quoi les sous-entendus? Parce que ces gens-là sont assez intelligents pour pas dire « vas-y, à fond, tir tendu ». Ils ont des codes, ils ont d'autres manières. Mais c'est évident qu'il y a eu un moment des échanges entre Darmanin, Dubé, les hauts gradés et les gradés de terrain qui leur ont donné les coups des franches pour avoir ces niveaux de violence et pratiquer les tirs.